Le message qui va suivre vous est présenté par l'église La Maison du Bâtisseur, avec pour orateur Luc Ondias, pasteur principal. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez richement édifiés en Christ. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par téléphone au 04 65 60 56, par mail en nous écrivant à contact@lamaisondubâtisseur.com ou en vous rendant sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Nous vous souhaitons une agréable écoute. Que Dieu vous bénisse. Voilà, est-ce qu'on peut prendre nos Bibles dans le deuxième livre de Pierre, au chapitre 1. Deuxième livre de Pierre, au chapitre 1. Deuxième livre de Pierre au chapitre 1, à partir du verset 3. Alors moi je vais certainement lire, mais je ne vais certainement pas lire avec la même version que vous. Moi je vais lire avec la version parole vivante. Est-ce que quelqu'un peut lire dans la version normale avant? Allez.
Mallory.
C'est un signe.
Versets 3 et 4. Chapitre 1, versets 3 et 4.
Par sa divine puissance, le Seigneur nous a donné tout ce qui nous est nécessaire pour vivre l'attachement à Dieu. Il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer de sa propre gloire et à son œuvre merveilleuse. C'est ainsi qu'il nous a accordé les biens si précieux et si importants qu'il avait promis, afin qu'en les recevant, vous puissiez échapper au désir de son
Amen. Et je vais relire le même verset en version parole vivante. Écoutons bien. Par sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour accéder à la vie véritable et pour vivre dans l'attachement à Dieu. Amen. En effet, il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à partager sa propre gloire et sa puissance. Par cette gloire et cette puissance divine, nous avons reçu des promesses. Dis avec moi des promesses. D'une suprême importance. Dis avec moi une suprême importance. Et d'un prix inestimable. Dis avec moi un prix inestimable. Grâce à elles, les promesses, vous pourrez échapper à l'empire des passions qui mènent ce monde à la ruine et devenir participants de la nature divine. Nous avons reçu des promesses d'une suprême importance et d'un prix inestimable. Ça, c'est de toi dont il parle ici. Tu sais, la Bible, quand tu la lis, il faut la lire doucement. Parce que la Bible parle de toi. Et la première raison pour laquelle beaucoup de gens galèrent dans leur marche avec le Seigneur, ils ne prospèrent pas, ils ne réussissent pas, ils n'expérimentent pas des percées, ils n'arrivent pas à progresser, c'est parce qu'ils sont ignorants. Et plus j'avance dans la méditation de la parole, dans l'étude de la parole, et petit à petit aussi dans le ministère, le Seigneur me fait comprendre que, Luc, tu dois leur parler de leur identité. Et ce matin, quand j'étais en train de méditer la parole et de préparer le message, le Seigneur me disait, ce que je t'ai donné à partager avec l'Église, c'est un trésor. Le message que nous avons, c'est un trésor. Vous entendez beaucoup d'églises qui entendent ce qu'on entend ici. Franchement, dites-moi. Les autres églises sont très bien aussi. Hein. Et Dieu fait grâce aussi à sa manière, aussi aux autres églises. Les pasteurs font un travail merveilleux pour prendre soin des brebis du Seigneur. Mais ce que Dieu nous a donné de comprendre par rapport à sa personne, par rapport à notre identité, par rapport à l'adoration et par rapport aux promesses qui sont accomplies en Jésus-Christ, la manière dont nous donnons le message ici, c'est une grâce. Parce que Dieu veut tout simplement libérer son peuple. Amen. Nous avons reçu des promesses d'une suprême importance et d'un prix inestimable. Depuis plusieurs semaines, on est dans notre série intitulée « Héritier des promesses par la foi ». Et on a déjà dit beaucoup de choses. La semaine dernière, on s'est penché sur la foi. Et aujourd'hui, oula, je n'ai pas changé ça. C'est pas grave. Mais, le message 5, j'ai oublié de changer. Le message 5 est intitulé, je ne sais même pas si j'aurai le temps de finir, aujourd'hui ou la semaine prochaine, est intitulé « 10 promesses de notre héritage accessible en Christ ». Luc, tu peux me baisser un tout petit peu le gain, s'il te plaît. Un petit peu. Merci. 10 promesses de notre héritage accessible en Christ. Amen. La semaine dernière, on a parlé de la foi. Pourquoi est-ce qu'on a parlé de la foi? On a dit au tout début que les promesses étaient disponibles. Il fallait entrer en possession des promesses. On a dit beaucoup de choses. Et pour résumer un peu ce qu'on a dit la semaine dernière, ce qu'il fallait comprendre, c'est quoi? C'est que quand nous sommes en Jésus-Christ, depuis que Jésus-Christ est ressuscité et que nous, quand nous entendons l'Évangile, nous donnons notre vie à Jésus-Christ, Dieu a libéré ce qu'on appelle la grâce. Dis-moi la grâce. Il y a tout ce dont nous avons besoin dans la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est une faveur, avec un grand F. Une faveur qui est sortie du trône de Dieu pour son peuple. Dis-moi la faveur. Divine. Et cette faveur-là a été libérée sur l'Église, le corps de Christ. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, tu es une personne qui vit avec une main tendue sur ta tête. Et cette main s'appelle la grâce. Le problème, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu sont ignorants de ça. Et le Seigneur nous a donné ce message qu'il faut annoncer ça, en fait. Que le royaume des cieux est là. Et qu'il y a tout ce dont nous avons besoin dans le royaume. Et tout est accessible par la grâce. Dis avec moi la grâce. Maintenant, pour pouvoir prendre possession de ce que la Bible, de ce que l'apôtre Paul dans la Bible appelle les promesses, ou bien ici encore, Pierre encore parle des promesses. Vous n'avez pas remarqué que dans le Nouveau Testament, Paul parle beaucoup des promesses. Pierre aussi parle des promesses. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que les promesses? Les promesses, ce sont des paroles que Dieu a déclarées sur son Église et qu'il a accomplies en Jésus-Christ. Dis avec moi Jésus-Christ. Quelles que soient les promesses, quel que soit le domaine de ta vie, je t'assure, tout est disponible. Maintenant, comment tu fais pour entrer en possession de ces promesses-là? Grâce à quelque chose qu'on appelle la foi. Et la semaine dernière, on a dit beaucoup de choses sur la foi, je ne vais pas y revenir. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour que la promesse, quel que soit le domaine, pour qu'une promesse soit activée dans ta vie, il faut que la grâce de Dieu puisse rencontrer ta foi. Et en fonction de ta foi, en fonction de ton niveau de foi, la grâce se déverse dans ta vie. C'est pour cela que Dieu ne fait pas de favoritisme, dit la Bible, un. Et deux, Jésus-Christ disait tout le temps, qu'il te soit fait selon ta foi. Donc c'est le niveau de ta foi qui va déterminer la mesure de grâce que tu vas recevoir dans ta vie. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je répète, c'est le niveau de ta foi qui va déterminer la mesure de grâce que tu vas recevoir dans ta vie. Plus ta foi est élevée, plus la grâce que tu vas expérimenter sera grande. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour cela que depuis le jour où j'ai commencé à comprendre ces choses, j'ai plus peur. J'ai plus peur en fait. C'est-à-dire, je fais les choses, je regarde devant moi, je regarde l'Église, je regarde ma vie, je regarde les domaines dans lesquels Dieu nous appelle, etc. Et puis, la peur s'en va. Au début, tu as peur, tu doutes, tu sais pas, tu hésites, etc. Tu ne sais pas comment tu vas faire, il n'y a pas l'argent, les gens, etc. Mais avec le temps, quand tu entres dans la parole de Dieu et que tu te rends compte qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et toute personne qui est en Christ a sur lui une grâce particulière et qu'il y a des promesses qui sont disponibles, c'est bon, avance. Un enfant de Dieu qui est en Christ, en conformité avec la parole de Dieu, ne peut pas être maudit, ce n'est pas possible. Il n'est pas maudit, il est béni. Dis avec moi, je suis béni. Il est béni et il est appelé à prospérer dans tous les domaines de sa vie. Quel que soit le domaine, il va prospérer. S'il comprend son identité, s'il comprend la parole de Dieu et s'il met en application la parole de Dieu dans sa vie, il va prospérer. Et je peux vous assurer que depuis que j'ai commencé à comprendre ça avec mon épouse, on marche par la foi. Tout se fait par la foi. Mais quand tu commences à marcher par la foi dans ta vie, je t'assure, plus ta foi augmente, plus la grâce augmente. Et ça, c'est notre message. Nous sommes des fils du royaume. Et les fils du royaume ne sont pas là pour galérer. Jeudi matin, de 9h à 13h, il y a un organisme ici, non chrétien, qui m'a appelé. J'étais à la chambre de commerce. On a dit, Luc Ondias, de surcroît aussi pasteur, on voudrait que tu viennes parler à des gens. Ce sont des gens, moyenne d'âge, 20 ans, 40 ans. 80% d'entre eux, enfin, trois quarts d'entre eux n'ont pas le bac. Personne ne travaille. Ils n'ont pas d'argent. Et ils sont issus des milieux très défavorisés. On voudrait que tu viennes leur dire une parole. On n'a pas d'argent à te donner. Viens juste leur parler. J'ai dit, ok, je vais venir vous parler. Je suis allé leur parler pendant 2h30. Voire 3 heures avec les questions à la fin. Et ils voulaient qu'on parle business, entrepreneuriat, faire des projets au Gabon, etc., etc. Mais tu sais, quand le Saint-Esprit conduit quelque chose, j'ai commencé à parler, j'ai parlé. J'avais 150 personnes devant moi. Au début, ils ne me connaissent pas. Je suis venu parce que la personne, le responsable, me l'avait demandé. Mais je peux vous assurer qu'au bout de 3 heures d'échange, tu vois, à la fin, c'est possible! Et je commençais à leur parler, j'ai commencé dans mon discours, je leur parlais de Dieu. Je leur parlais de Dieu. Et puis je leur dis, mais vous savez, on n'est pas venu sur terre pour souffrir. Hein? Hé, moi je refuse de souffrir. On n'est pas venu sur terre, on n'a qu'une seule vie. La vie passe vite. Demain là, 60 ans, 70 ans va sonner, ding, tu ne vas rien comprendre. Donc il ne faut pas perdre du temps dans ta vie. Il y en a qui naissent dans des conditions et ils n'ont pas demandé la souffrance, ok? Il y en a, ils n'ont pas demandé ça. Mais, quelle que soit la souffrance que tu peux vivre dans ta vie, au Gabon, il faut refuser ça. Il faut te lever et dire à Dieu, Dieu, je refuse ça. Ouvre-moi les yeux et accorde-moi la grâce de prospérer et d'atteindre ma destinée. Je ne veux pas mourir ici comme un ver de terre et puis je n'aurai pas accompli ma destinée. Je refuse ça. Le problème, c'est que beaucoup ne se lèvent pas pour dire ça. Amen. Et tout est possible par la foi. Dis avec moi la foi. Donc, maintenant, moi, ce sur quoi je voudrais me concentrer, je sais vraiment pas si j'aurai le temps de finir aujourd'hui, mais bon, pour finir cette série-là, je voulais me concentrer sur quelques promesses. Il y a beaucoup de promesses dans la Bible qui font partie de notre héritage. Et puis, on va essayer d'en prendre quelques-unes. Là, j'en ai cité 10. J'ai annoncé 10. Maintenant, j'espère qu'on pourra avoir les 10. Amen. Pour accéder aux promesses qui sont inscrites dans la parole de Dieu, il faut avoir ce que j'appelle la clé des clés. Dis avec moi la clé des clés. Il y a une clé dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu, qui est la clé au-dessus de toutes les clés. Et cette clé s'appelle l'intelligence. Dis avec moi l'intelligence. Et l'intelligence est quelque chose qui se confond beaucoup avec ce que j'appelle aussi la clé des clés, la connaissance. Mais l'intelligence est issue de la connaissance. Tout part d'abord de la connaissance. Qu'est-ce que la connaissance? La connaissance, c'est de l'information. Quand tu ouvres ta Bible, elle est remplie d'informations. Mais tu actives la clé des clés dans le royaume que l'on appelle l'intelligence divine quand tu commences à entrer, quand tu commences à comprendre ce que tu es en train de lire. Et là, il y a une libération qui se fait. C'est pour ça que Jean 8, 32, Jésus-Christ dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Libre de quoi? Libre d'un esclavage intellectuel et spirituel qui te maintient dans l'ignorance et dans la pauvreté. Vous voyez ce que je veux dire? Tu ne peux pas entrer en possession de ton héritage sans avoir l'intelligence. Quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qui a compris des choses. Et quand il a compris, ses yeux s'ouvrent sur la réalité qui l'entoure. Et ça lui permet d'avancer. Regardez ce que Jésus-Christ nous dit. Jésus-Christ nous dit dans Matthieu 13, au verset 10. C'est un passage qui m'a marqué. Vous vous rappelez du message que j'ai donné en début d'année 2014 qui s'appelait « Les clés du royaume ». Qui se rappelle de ce message? Les clés du royaume. C'est un message très, très important. Parce que Jésus-Christ, quand il a prié pour Pierre, qui lui a dit « Tu es le Christ », Jésus-Christ a dit « Je te donnerai les clés du royaume. » Et même la mort ne prévaudra point contre toi. Parce que sur toi, je bâtirai mon église. Et je te donnerai, Matthieu 18 au verset 16, je te donnerai les clés du royaume. Les autres commençaient à être jaloux déjà. Oh, les clés du royaume, c'est Pierre qui a eu ça. En fait, ils ne comprenaient pas que c'est eux tous. C'est pour ça que Pierre, c'était un patron. Il a les clés. Quand tu verras Pierre aussi, tu vas aller avec des gros trousseaux de clés sur lui. Les clés du royaume. Matthieu 13 au verset 10, Jésus-Christ dit. Jésus-Christ venait de raconter la parabole du semeur. Et Jésus-Christ dit, parle maintenant à qui? Il parle aux 12 et puis à d'autres disciples. Et Jésus-Christ leur dit ceci. Les disciples s'approchèrent et lui dirent. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole, Jésus? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Dites-moi les mystères du royaume des cieux. Et que cela ne leur a pas été donné. La parole, c'est bon. Quand tu commences à rentrer dedans, là, c'est... Les mystères du royaume. La Bible, là, que tu tiens entre tes mains, c'est un mystère. Et quand tu commences à comprendre que c'est un mystère, ta passion, c'est de percer les mystères de ça. Si, moi, j'ai rencontré, je connais aujourd'hui des hommes de Dieu qui sont multimillionnaires. Ta question, c'est comment un homme de Dieu peut être multimillionnaire? Pourquoi pas? Et j'ai rencontré aussi des chrétiens qui ne sont pas des hommes de Dieu en particulier, mais qui sont des simples chrétiens et qui sont multimillionnaires. Et j'ai même rencontré des païens qui étaient multimillionnaires par le biais de mes activités. J'ai dit, quelle est la différence entre lui et moi? Si Dieu ne fait pas de favoritisme. Parce que lui, il a compris des choses qui lui ont permis d'activer. Tu sais l'histoire qu'on appelle la richesse. Dis avec moi la richesse. La richesse est quelque chose qui fait partie de ton héritage. Tu sais pas ça? La richesse est quelque chose qui fait partie de ton héritage. Je t'annonce que tu vas devoir être à l'aise avec la richesse. Parce que la Bible dit dans le livre des psaumes que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ah ouais? Si l'or et l'argent appartiennent à Dieu, il veut donner ça à qui? Bah à toi! Il veut te donner ça à toi! Mais pour ça, il faut que tu deviennes intelligent. On ne donne pas la richesse à quelqu'un qui n'est pas intelligent. Si la richesse fait partie de ton héritage, fais tout pour ne pas mourir pauvre. Sinon, tu risques d'arriver au ciel et tu risques de voir plein de biens autour du trône et tu vas demander à Dieu, mais Seigneur, tout ça là, c'est pour qui? Dieu va dire, c'était pour toi quand tu étais sur la terre. Tu n'as pas eu ça. Je ne suis pas en train de dire que nous sommes tous appelés à devenir multimillionnaires. Ce n'est pas ça que je dis. Sinon, on va commencer à dire que ça, c'est le message de la prospérité. Ça. Non, c'est l'évangile. Je suis en train de te dire que tu es appelé à vivre heureux et prospère sur la terre. Dis amen à ça. C'est à ça que tu es appelé. Sois à l'aise avec ça. Pourquoi je vous dis ça alors que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes dans la salle? Parce qu'il faut que vous entendiez ça le plus tôt possible. Si vous entendez ça trop tard dans votre vie, vous n'aurez pas le temps de pouvoir mettre ça en place. Ce matin, ma femme était en train de dire, parce que hier, elle a acheté quelques vêtements à ma fille, et puis ma fille a choisi des vêtements jolis. Tu vois, non, jolis. Et puis ma femme dit, elle aime les belles choses, hein, ta fille là. J'ai dit, mais c'est ce que j'étais en train de dire aussi aux gens jeudi matin. Je leur dis, mais il faut apprendre à apprécier les belles choses dans la vie. Les gens étaient là, c'est vrai, hein, c'est vrai, hein, c'est vrai. Hein. Et je leur dis, mais attends, c'est quoi votre orgueil mal placé de chrétien là, qui fait que quand vous avez un peu d'argent, c'est fini, vous ne voulez pas vous acheter des belles choses, ça les gens, on est humble. Ça, c'est que l'humilité, ça. Dieu t'a donné, Dieu t'a fait grâce, Dieu t'a béni. Aime les belles choses. Et puis je leur dis, si tu rencontres quelqu'un qui te dit, il ne faut pas aimer les belles choses dans la vie, et puis tu sais, l'argent, c'est pour les gens du monde là, il nous faut rester pauvres, c'est un sorcier. C'est un sorcier. Éloigne-toi de lui. Éloigne-toi de lui. La Bible dit que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Il ne faut pas aimer l'argent. Mais il faut quand même apprécier les belles choses quand Dieu te fait grâce. La Bible dit aussi qu'il ne faut pas poursuivre la richesse. Donc il ne faut pas chercher tout le temps, être là, comme les gens du monde, à poursuivre la richesse, faire tout pour avoir de l'argent. Non, c'est là où tu vas mourir. Il faut vivre, te contenter de ce que tu as, travailler, prospérer, et par la grâce de Dieu, tu vas prospérer. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais il faut savoir que ça fait partie de ton héritage aussi. Amen. Et Jésus-Christ leur dit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. Et comment est-ce qu'on fait pour percer les mystères du royaume? Eh bien, avec les clés. Et la première clé, la clé la plus puissante dans le royaume, c'est la connaissance et l'intelligence. Amen. Le mot mystère ici que Jésus-Christ utilise, c'est le mot grec mysterion, en grec mysterion, qui veut dire secret, ou bien encore connaissance divine, ce qui est caché, une information non révélée, ou bien encore de la connaissance privée. C'est le mot mystère, là, c'est ça que ça veut dire, mysterion. Donc, ce n'est pas accessible à tout le monde. C'est pour cela que Jésus-Christ parlait devant les foules, et puis après, il leur disait les vérités cachées dans la maison. Où est-ce que je vais dire? Et nous faisons partie de ces personnes-là. Dans la version française courante, j'aime beaucoup le même passage, Luc, chapitre 8, au verset 9, français courant, il est écrit, « Les disciples s'approchèrent alors de Jésus et lui demandèrent, pourquoi leur parles-tu en utilisant des paraboles, c'est-à-dire des images ?» Il leur répondit, « Vous avez reçu, vous, dis avec moi vous, vous avez reçu, virgule, vous, c'est-à-dire toi, la connaissance, dis avec moi la connaissance, des secrets du royaume des cieux. Mais eux, c'est qui eux? Les gens de dehors. Mais eux ne l'ont pas reçu, car celui qui a quelque chose recevra davantage et sera dans... Celui qui a quelque chose recevra davantage. Tu ne sais pas que tu as quelque chose. L'histoire de Jésus, là. Quand tu as Jésus, tu as quelque chose de puissant. C'est ça, en fait. Celui qui a quelque chose recevra davantage et il sera dans l'abondance. Cette histoire d'abondance-là, c'est tous les domaines de la vie. Mais celui qui n'a rien, c'est-à-dire le païen, on enlèvera même le peu qui pourrait lui rester. Amen. L'ecclésia, c'est-à-dire vous, l'église. Parce que quand Jésus-Christ dit à Pierre, je bâtirai sur toi mon église, le mot église en grec, c'est le mot ecclésia. Ecclésia, vous savez ce que ça veut dire en grec? Vous savez qui a utilisé ça en premier? Ce sont les Grecs. Les Grecs. Ensuite, les Romains ont récupéré le terme. Ecclésia, ça veut dire un groupe fermé et proche du roi. Les Romains ont récupéré la même chose et ont créé l'Ecclésia autour du roi César. Autour du roi César, il y avait un groupe de personnes, un comité fermé qu'on appelait Ecclésia, qui veut dire église. C'est pour ça que Jésus-Christ ne dit pas « Je bâtirai sur toi, Pierre, l'Église ». Il dit « Je bâtirai sur toi, mon Église ». C'est-à-dire « Je bâtirai sur toi, mon ecclésia, mon groupe privé, à moi ». Et vous savez comment on a traduit ce mot? En français, pour nous, dans notre jargon républicain, on a traduit ça par le mot Sénat. Dis avec moi le Sénat. Dernièrement, à la Libreville, il n'y a pas eu des élections de sénateurs. Vous savez, c'est qui les sénateurs? Les sénateurs, ce sont ceux qui ajournent les lois dans le pays. Ce sont des gens très puissants. Ce sont des gens qui sont dans l'intimité du patron. Le patron, le président de la République, ne peut pas décider sans avoir l'aval du Sénat. C'est pour ça que dans notre pays, là, Rose Francine Rogombe, la présidente du Sénat, c'est quelqu'un de très dangereux. Le président de la République dans la République a un premier ministre, voire un vice-président, n'est-ce pas? Mais en 2009, quand Feu Omar Bongo est décédé, c'est qui a pris le pouvoir? Pourquoi? Parce que dans la constitution du pays, la personne qui prend le pouvoir quand le président est en incapacité, c'est la présidente du Sénat. C'est la numéro 2 de la nation. Qu'est-ce que je veux dire? Il faut bien comprendre ça. Dans le royaume des cieux, les gens qui sont les plus dangereux sont les gens qui font partie du Sénat de Christ, c'est-à-dire l'Église. Dis avec moi l'Église. Vous comprenez, non? Quand j'ai commencé à voir tout ça, j'ai dit, ah, Jésus, tu es fort. Hein? Donc nous, là, toi et moi, là, on fait partie du Sénat de Jésus. On fait partie du Sénat, on fait partie de son Église. C'est-à-dire ses proches collaborateurs, sa chambre secrète. Donc, à nous, il nous révèle des choses. Donc, quand tu t'agenouilles dans ta chambre là, et que tu pries, là, tu es quelqu'un de très, très privilégié. C'est pour cela que plus tu vas développer ta communion avec le Saint-Esprit, plus tu vas commencer à te montrer des choses sur ta vie et tu vas pouvoir prospérer. Amen. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Matthieu 16, 18. Et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. Les clés du royaume, ce sont des informations secrètes, directement des informations secrètes, que Jésus-Christ ne révèle qu'à ses disciples. C'est pour ça qu'il y a une différence entre les païens, la foule et les disciples. C'est pour cela que j'avais prêché ici, j'avais enseigné ici le message 10 bénéfices de l'engagement d'un disciple. Il faut s'engager, il faut être un disciple. Dans sa relation avec Christ, avec Dieu, il faut s'engager à être plus proche de Dieu. Il faut arrêter de tourner en rond. Il faut être un disciple. Il y a une différence entre un chrétien et un disciple. Les chrétiens, ils remplissent les églises ici. Mais les disciples, ce sont des gens qui sont dans l'intimité. Vous voyez ce que je veux dire? Et eux, ils ont accès à la clé des clés qu'on appelle la connaissance et l'intelligence. La différence entre la connaissance et l'intelligence, je répète, la connaissance, c'est acquérir de l'information. Quand tu lis un bouquin, c'est de l'information. Tu vas voir qu'il y a plein de bouquins que tu as lus. Aujourd'hui, tu as tout oublié. Il faudrait que tu relises tout le bouquin pour te rappeler ce qui est écrit dans le bouquin. D'accord? Mais il y a d'autres bouquins, quand tu les as lus, tu as compris ce qui était dedans. Tu n'as plus besoin de relire le livre, tu as seulement compris. Et ça, changer quelque chose dans ta tête. Ça, c'est l'intelligence. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, ma prière, c'est qu'on devienne intelligent. Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'on devienne intelligent. C'est pour ça que Dieu m'a dit, il faut que tu commences à parler de ça maintenant. Parce que moi, je veux faire de ton église des gens intelligents. Dieu veut que tu sois intelligent. Dis avec moi, je ne suis pas appelé à galérer. Tu n'es pas appelé à galérer. Tu es appelé à prospérer et à vivre heureux sur la terre avec le Seigneur. Amen. Donc, nous, en tant que citoyens du royaume des cieux, on fait partie de l'Église de Jésus-Christ, à qui il a donné les clés du royaume et les promesses qui font partie de notre héritage en Jésus-Christ, elles sont disponibles si on sait utiliser les clés. La clé des clés, c'est la connaissance. Et pour vivre les promesses divines dans notre vie, il faut posséder l'intelligence qui est une clé très importante. Amen. C'est très important. Quand tu ouvres ta Bible, elle est remplie de promesses. Elle est chargée de promesses. Toutes ces promesses sont déjà accomplies en Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ a prononcé le cri, tout est accompli, c'est fait. C'est-à-dire, quelle que soit la promesse à laquelle tu penses, quelle que soit la promesse que le Saint-Esprit te montre dans la Bible, tout ce que tu as à faire, c'est activer l'intelligence pour pouvoir acquérir la promesse là, par la foi. Amen. Et une fois qu'on a la connaissance qui libère, et qu'on la comprend et qu'on devient ensuite intelligent, on arrive à la dimension de ce que la Bible appelle la sagesse. Dis avec moi la sagesse. Et là, la percée se fait. Vous avez jamais entendu des discours comme ça dans les églises? Aujourd'hui, tu vas percer. Percer. Oh, percer. Tu seras la tête et non la queue. Percer. Vous sentez là, vous êtes toujours aussi. Vous êtes pareil, vous n'avez pas changé. Pour expérimenter la percée, il faut atteindre la sagesse. Et la sagesse vient d'où? La sagesse vient quand on devient intelligent. Un jour, j'étais en train de lire un magazine sur Internet et puis je tombe sur un article, oh, les 10 personnes les plus riches du monde. Et puis je dis, oh, je ne vais pas aller lire ça. Et puis je vois le premier, c'était un Colombien, là, je ne sais pas qui, là. Et puis le deuxième, c'était Bill Gates. L'année d'avant, c'était Bill Gates. Et en fait, chaque année, c'est toujours les deux-là qui se battent. Alors, c'est qui va être le plus riche cette année? Non, 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 non. C'est toujours les deux-là qui se battent. Or, en 2014, c'est Bill Gates. C'est lui qui est maintenant deuxième. 2015, bah, peut-être qu'ils vont encore chercher. Et en fait, je lisais Bill Gates. Bill Gates, c'est celui qui a créé Microsoft. Tu vois les ordinateurs? Ding, 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 ding. Tu vois? C'est lui qui crée ça. Windows, etc. Word, Excel, etc. Et puis, il disait, Bill Gates, dans sa poche, chaque année, bénéfice net à lui, l'argent à lui. Il fait 19 milliards de dollars. Il dit avec moi, tu vois, 19 milliards de dollars. J'ai dit, hein? Quelle est la différence entre lui et moi? C'est qu'il a développé son intelligence et il est devenu sage. Et la sagesse, là, ça attire beaucoup de choses. Même l'argent. Même l'argent. Ah là là. Donc, une fois qu'on a la connaissance et qu'on acquiert, qu'on devient intelligent, c'est-à-dire qu'on comprend cette connaissance qui est inscrite dans la parole de Dieu, on atteint la sagesse. Et quand on atteint la sagesse, quand on atteint la sagesse, on commence à maîtriser. On va avoir en 2014, là je suis en train de préparer un enseignement, on va rester plusieurs semaines, mais le Seigneur m'a dit qu'il ne faut pas aller jeter ça trop vite, il faut bien préparer les gens parce que c'est des enseignements qui ne sont pas... Il faut bien... On va avoir un enseignement pendant plusieurs semaines sur la sagesse. Parce que moi aussi je suis en train de comprendre des choses personnellement pour ma vie aussi, et dès que je comprends quelque chose, tout de suite mon désir c'est partager avec l'Église en fait. Parce que je veux que nous tous on devienne sages, et puis on est sages, nous tous avec les cheveux blancs on va se regarder, maintenant on est tous sages et tout. Non, l'auteur de la sagesse, celui qui nous donne la sagesse, celui qui nous permet d'entrer en contact avec la sagesse, s'appelle le tuteur royal. Dis avec moi le tuteur royal. En la personne de Sa Majesté le Saint-Esprit. Vous vous rappelez, il y a deux semaines, on a parlé de l'administrateur royal. L'administrateur royal, c'est Jésus-Christ. C'est celui qui tient qui a la clé de notre héritage et qui attend l'aval du tuteur royal pour nous permettre d'entrer en possession de notre héritage. Le tuteur royal, le Saint-Esprit, c'est celui qui nous prépare. Et comment il nous prépare? Il nous prépare à la sagesse. Il nous apprend des choses, il nous enseigne des choses. Regardez, Jean 14, au verset 26, il est écrit, « Mais le Consolateur, ou encore le tuteur royal, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera, dites-moi, vous enseignera, toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc le tuteur royal, le Saint-Esprit qui habite en toi depuis que tu connais Jésus, il est là pour t'enseigner et t'apprendre tout ce qui est écrit dans la Bible. Et quand tu comprends ce qui est écrit dans la Bible et que tu commences à grandir et devenir mature spirituellement, tu deviens intelligent. Ta vie change. Ta vie change. Elle est transformée. Et quand tu deviens intelligent, plus tu deviens intelligent, plus tu comprends la parole, plus tu deviens mature. Et tu vas voir que plus tu mets en pratique la parole dans ta vie, plus tu commences à mettre ça en pratique dans ta vie personnelle, mais aussi dans ta vie professionnelle, dans ta vie maritale, au travail, à l'école, etc. Les jeunes, par exemple, vous qui allez à l'école, là, chaque fois maintenant que vous êtes devant, vous préparez un examen, dites toujours cette prière, « Seigneur, rends-moi intelligent et sage. » Fais cette prière-là, cette petite prière, fais ça. Dis Saint-Esprit, merci pour l'intelligence et la sagesse. Tu vas voir comment tes notes vont exploser. Parce que tu demandes ça à Dieu. Amen. Qu'un jeune dise amen quand même. Mais alors. Et le Saint-Esprit, quand tu es en communion avec lui, plus tu es en communion avec le Saint-Esprit, plus tu es en communion avec lui dans la parole de Dieu, plus il t'ouvre les yeux sur la vérité qui est contenue dans la parole de Dieu et sur ta vie, et plus tu deviens intelligent. Et plus l'héritage dont on parle, les promesses qui sont dans la Bible, plus elles deviennent visibles. Quand, par exemple, il fait chaud, imagine qu'il fait très très chaud, et puis tu as soif, hein? Tu es là, tu as vraiment soif. Et puis quelqu'un, sauf que tu as les mains attachées, tu es bloqué, tu as les mains attachées. Et puis quelqu'un, il fait vraiment très chaud. Tu es là depuis des jours et des jours. Tout ce que tu désires de tout ton cœur, c'est boire de l'eau. Et puis, le diable vient avec un verre d'eau devant ton nez. Puis tu vois que l'eau est fraîche avec les glaçons. Tu es là. Qu'est-ce que ça fait? Tu es frustré. Tu vois, non? Ou bien, c'est comme quand tu es là, tu galères. Il n'y a pas à manger à la maison. Il n'y a pas d'argent pour prendre le taxi. Tu dois aller travailler. Mais tu ne peux pas te déplacer. Tu as faim. Quand tu ouvres le frigo, tu vois, il y a l'odeur du vide là dans le frigo qui te frappe le nez là. Il n'y a pas à manger. Tu n'as pas remarqué que quand il n'y a pas à manger, tu es là, tu traînes au salon, tu vas à la cuisine. Il n'y a pas à manger. Tu as faim. Tu veux appeler les gens, il n'y a pas d'unité. Sur le téléphone, tu es là. Tu es là, oh mon Dieu, comment je vais faire? Et tu es tellement frustré que... Mais il y a au moins le courant chez toi. Et puis, tu allumes la télévision. Et puis quand tu allumes la télévision, tu tombes devant un film où ils sont tous à table en train de manger. Tu es là, tu regardes le film. Ça te fait quelque chose. Tu dis, ah Seigneur. Et puis tu ne sais pas pourquoi. Tu vois juste les larmes qui commencent à couler. Ah Seigneur, pourquoi je galère comme ça? Hein? Eh bien tu sais, quand tu découvres les promesses pour ta vie et que tu continues à galérer, eh bien tu ressens la même frustration. C'est comme ça qu'il y a des gens qui, on leur parle tout le temps de l'héritage, des promesses, l'abondance en Jésus-Christ, et ils sont à l'église pendant des années et ils voient toujours leur vie médiocre. Et puis du jour au lendemain, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, ah, ça ne m'apporte rien à l'église là. Et ils rentrent chez eux. Et quand tu leur dis, viens à l'église, il n'y a rien à l'église. Oh, on est là, il n'y a rien. Oh, depuis qu'on va là-bas, y a rien, ça ne change pas. C'est parce qu'au bout d'un moment, ils sont frustrés et ils voient que l'église ne leur apporte rien. Eh bien, c'est pareil. C'est le verre d'eau qu'on met devant eux. C'est-à-dire, les pasteurs, quand il y a un bishop, il est beau, la chaussure qui est longue comme ça, la grosse montre qui brille. Tu as l'héritage en Christ. Vous êtes pauvre dans l'église, lui, il brille. Tu as l'héritage au nom de Jésus. Amène ta dîme ici. Seul, prends possession de ton héritage. Alors, celui qui veut prendre possession de son héritage, tout de suite, c'est 10 000. Celui qui veut prendre double portion, c'est 20 000. Celui qui veut percer, 50 000. Celui qui a la foi, 100 000. Oh, la foi violente, Yahweh, la foi violente. Viens se mettre. Tu vois les gens pauvres comme ils sont. Oh, tu es fauché. C'est pas ça qui va faire la différence. Oui, tout ça c'est bien. Tout ça c'est la foi, tout ça. Mais l'intelligence, dis-moi l'intelligence. Tu peux activer la foi par la semence, mais au bout d'un moment, quand l'opportunité va se présenter devant toi, tu as provoqué l'opportunité avec ta semence, ok? Maintenant, quelqu'un vient t'ouvrir une porte et il te dit, voici un marché que je te donne. Prépare le marché. Maintenant, il faut avoir l'intelligence d'aller te mettre devant l'ordinateur et puis de composer la prestation. Tu vois ce que je veux dire, non? Une fois, il y avait un gars, il rêvait de faire la musique. Il rêvait de devenir une star. Un bon chrétien, né de nouveau, qui prie en langue. Et puis, vraiment, en début d'année, il a dit, je vais faire une grosse semence pour que cette année, j'ai une opportunité dans la musique et puis je vais percer. Donc, il a fait une semence violente. Et au cours de l'année, comme par hasard, un jour, il est en train de faire une prestation quelque part et puis il y a un agent d'une grosse maison de disques qui le voit, qui le remarque. Et l'agent vient le voir et lui dit, voici ma carte. Je travaille pour Sony Music Colombia. On aimerait te rencontrer, jeune homme. Ah! Voici la percée, mon ami. Sauf que là, il faut avoir l'intelligence de préparer ton entretien. Donc, il est parti rencontrer les barons de chez Sony. Donc, quand il est maintenant devant les barons de chez Sony, au lieu de parler de son projet musical, de son album, ce qu'il va faire avec eux, préparer la carrière musicale, il commence à lui jeter des fleurs, tu es bon dans ce que tu fais, etc. On lui dit, bon, tu sais, les chansons vont être comme ça, comme ça, comme ça. Il commence à dire, oh, vous savez, moi, j'aime Jésus. Hein. J'aime Jésus, vous savez, non? Donc, tu ne peux pas faire ça, Jésus. Tout ça. Ils ont dit, hein? Tu parles de qui, là? Tu parles de qui? Non, mais Jésus. Au bout d'un moment, il commence à parler de Jésus à l'entretien. Les Blancs l'ont regardé comme ça. Oh, les gars, qu'est-ce qu'il nous fait? Ils ont dit, bon, jeune homme, on va te rappeler. Hein. À plus tard. Manque de sagesse. Dis avec moi, manque de sagesse. Il n'a pas eu l'intelligence et la sagesse de se taire. Ils ont dit, si lui commence à nous bombarder, Jésus, comme ça dans le bureau, qu'est-ce qu'il va aller dire devant les chaînes de télévision? Manque de sagesse. Amen. On avance. Quand tu es en communion avec le Saint-Esprit, plus tu es en communion avec le Saint-Esprit, le tuteur royal, plus il va t'ouvrir les yeux sur ton identité et sur la réalité des promesses du royaume. Et plus tu comprends maintenant les promesses qui sont contenues dans la parole de Dieu, plus tu vas comprendre ça, plus tu vas devenir intelligent. Celui qui est en Christ est quelqu'un qui a un très très grand héritage. Dieu a pour lui beaucoup de choses, mais il doit comprendre et activer la foi pour les saisir. Paul a dit dans, je crois que c'est ça. Paul a dit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, 17. L'histoire de la foi vient de ce qu'on entend là. C'est, j'avais dit ça ici dans l'enseignement La puissance de la prière, quand j'avais parlé du Réma. Vous vous rappelez? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qu'on entend là, c'est le Réma. La foi vient du Réma, c'est-à-dire quand le Saint-Esprit vient parler la parole de Dieu dans ta tête, dans ton esprit. Quand le Saint-Esprit prend la parole et prononce ça dans sa tête, c'est ça qui produit la foi. Et c'est cette foi-là qui devient suffisamment violente pour prendre possession de ton héritage. Vous voyez ce que je veux dire? Plus tu vas entendre la parole, c'est-à-dire quand tu es en train de la lire, quand tu es en train de la méditer, plus le Saint-Esprit va prendre cette parole-là et va la faire résonner dans ton esprit. C'est-à-dire quand tu seras face à une situation, comme la dame dont je vous avais parlé, qui avait failli se faire enlever et tuer par ses enfants dans la maison. Vous vous rappelez? Et puis elle était dans la maison, elle sortait du culte et puis elle voulait aller visiter une maison et puis on la séquestre dans une pièce et puis elle voit un monsieur qui apparaît avec une machette et qui dit aujourd'hui tu vas mourir. Et puis elle commence à dire le sang de Jésus, parce qu'elle commençait à comprendre, elle avait compris la puissance du sang de Jésus. Vous voyez ce que je veux dire? Le Saint-Esprit lui dit, dis le sang de Jésus, tu vas voir ce qui va se passer. Et là il y a eu le miracle dont j'avais parlé la dernière fois. Plus tu vas être rempli de la parole, plus le Saint-Esprit va pouvoir prendre la parole et la faire résonner dans ton esprit. Susciter cette foi-là, et c'est cette foi-là qui va te permettre d'activer le miracle. Où est-ce que je veux dire? Amen. C'est extrêmement important. Et quand tu deviens intelligent, tu accèdes à la sagesse. Et quand tu accèdes à la sagesse, alors les promesses sont faciles à activer dans ta vie. Salomon nous dit, dans Proverbe 3 au verset 13, c'est un passage que j'aime beaucoup. Proverbe 3 au verset 13 à 18, il est écrit, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Dis-moi la sagesse. Et l'homme qui possède l'intelligence. Dis-moi l'intelligence. Car le gain, dis-moi le gain. Le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Tu veux vivre longtemps? Trouve la sagesse. Tu veux la richesse et la gloire? Trouve l'intelligence. Ces voies sont des voies agréables et tous ces sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. Proverbe 4, au verset 7, un autre passage aussi que j'aime beaucoup, toujours Salomon qui parle, il dit « Voici le commencement de la sagesse. » Dites-moi la sagesse. « Acquiert la sagesse. » Et avec tout ce que tu possèdes, tout ce que tu as, avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Dis avec moi l'intelligence. Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Amen. C'est important ça. Il y a 5 bénéfices de l'intelligence divine qui naît en nous quand nous sommes en communion avec Dieu. 5 bénéfices. Est-ce qu'on peut dire avec moi 5? 1. L'intelligence te permet de voir dans l'esprit ce que Dieu dit à ton sujet. 1. Deux. L'intelligence te permet de voir au-delà de la réalité qui t'entoure. 3. L'intelligence divine te permet de saisir par la foi la main de Dieu. C'est-à-dire quand Dieu tend sa main vers toi, qu'on appelle la grâce, la foi te permet de saisir la main de Dieu, c'est-à-dire la promesse. 4. L'intelligence te permet d'opérer à une dimension supérieure ou bien encore à une dimension surnaturelle. L'intelligence divine dont je parle, que l'on peut aussi appeler la sagesse. Quand je dis l'intelligence divine, tu peux mettre aussi la sagesse derrière. Et l'intelligence divine ou encore la sagesse, l'intelligence divine te permet d'activer 2 promesses capital dans le royaume. Une s'appelle la sagesse divine et l'autre s'appelle la paix divine. Dis avec moi la sagesse et la paix. Ce sont les 2 premières promesses. Les 2 premières promesses qui sont dans ton héritage. La première c'est la paix, la deuxième c'est la sagesse. Amen. Pourquoi? 1. La sagesse pour te permettre d'opérer sur la terre, pour réaliser des choses et faire des exploits avec le Seigneur. Et 2, la paix, parce que face aux circonstances du monde, tu dois toujours être en paix. C'est pour cela que Jésus-Christ, vous vous rappelez ce passage dans le livre de Jean, où Jésus-Christ est en train de parler à ses disciples, et Jésus-Christ leur dit, je vous donne ma paix. Vous vous rappelez pas ce passage? Et il rajoute, non pas la paix du monde, mais je vous donne ma paix. C'est quoi la paix du monde? La paix du monde, c'est l'argent, des biens matériels, le travail. C'est ça la paix du monde. La paix du monde, c'est quand tu as des choses, tu as l'impression que tu te sens bien, tu as l'impression que tu es à l'aise, tu travailles, tu as une voiture, tu as le boulot, tu as une promotion. Mais le jour où on t'enlève ça, tout d'un coup, tu es frustré. Voici la paix du monde. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens, vous n'avez pas remarqué que dès qu'on dit licenciement, on va licencier qui ici? Licenciement économique. C'est qui? On commence à se regarder. C'est qui? Le président est venu annoncer il y a quelques mois, on coupe la PIP. On va couper la PIP. Voici la paix que ça leur procurait. Mardi, j'étais dans le taxi et puis j'entends 2 femmes derrière moi. Moi, j'étais devant une derrière. Et puis, l'une commence à parler. Il était 10h30. Le directeur général, là, il ne veut pas nous donner nos PIP. Pourtant, les papiers sont déjà signés. Mais il ne veut pas nous donner nos PIP. Il n'a qu'à nous donner nos PIP. PIP, ça veut dire prime d'incitation à la performance. Alors madame, il est 10h30, qu'est-ce que tu fous dans le taxi? Tu n'es pas au travail. Elle allait au boulot à 10h30, mais elle veut la PIP. Qu'est-ce que je veux dire? Là, je provoque. Amen. Pour finir, on va commencer à rentrer dans les promesses. Et on va finir avec une promesse. Je ne peux pas en prendre plus parce que sinon, on ne va pas finir. On va juste prendre une promesse. Peut-être la semaine prochaine, je continuerai sur celle-là. La première promesse s'appelle la sagesse. Dis avec moi la sagesse. La sagesse. Mais ce qu'il faut d'abord comprendre, Et je tiens vraiment à le rappeler parce que le jour où vous oubliez ça, le jour où vous oubliez ça, vous perdez de vue tout le reste. C'est que nous, aujourd'hui, nous sommes en alliance avec Dieu. Amen. Nous avons une alliance avec Dieu au travers de Jésus-Christ. Et c'est au travers de cette alliance que nous avons avec Jésus-Christ que les promesses sont disponibles. OK? Et personne sur cette terre-là ne peut briser l'alliance que tu as avec Jésus-Christ. Personne. Le jour où tu as confessé Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur et que tu nais de nouveau, tout de suite, il y a une alliance qui s'est créée entre toi et Dieu. Jean 1, 12 dit, « Ainsi, ils ne sont nés ni de la volonté de la chair, ni de l'homme, ni de leurs parents. Ils sont nés de Dieu. » C'est pour ça que tu deviens une nouvelle création. 2 Corinthiens 5, 17. « Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. » C'est-à-dire, le jour où tu deviens une nouvelle créature, tu es maintenant en alliance avec Dieu. Et depuis que tu es en alliance avec Dieu, dans cette alliance-là, il y a ce que Dieu appelle les promesses. Où est-ce que je veux dire? C'est pour ça que le Seigneur a mis à cœur de faire le séminaire en début janvier. Parce que 2015, là, c'est pas encore, on va venir encore pour le 1er janvier, oh, nouvelle résolution, nouvelle année, non, au bout d'un moment, il faut commencer à entrer dans les promesses. Où est-ce que je veux dire? C'est très important. Et dans cette alliance que nous avons avec le Seigneur, il y a des conditions. Les promesses sont là, mais pour pouvoir y accéder, il y a des conditions. Le succès dans la vie vient parce que tout simplement tu te prépares et tu fais un certain nombre de choses. Tu ne peux pas avoir le succès dans la vie si tu ne fais pas certaines choses. Ok? Donc, un, il faut trouver les promesses. Et deux, il faut comprendre ce que j'appelle les exigences, les conditions préalables pour pouvoir accéder aux promesses. Amen. Dans une alliance, il y a deux personnes. La première personne, c'est celui qui initie l'alliance, c'est-à-dire Dieu lui-même. C'est Dieu qui a initié l'alliance, d'accord, avec nous, au travers de Jésus-Christ. Et la deuxième personne dans cette alliance, ou bien dans ce contrat, c'est celui qui bénéficie. Et ça, c'est le croyant. C'est un peu comme au mariage. On a parlé ici beaucoup de mariage. Le mariage, c'est une alliance. Ok, entre deux personnes. Mais qui initie l'alliance? C'est l'homme. Parce que c'est lui qui fait la demande. Et qui bénéficie de la demande? C'est la femme. C'est pour ça qu'on avait dit dans la série sur le mariage, c'est pas la femme qui demande en mariage l'homme. C'est l'homme qui doit demander. Ok? Qu'un homme dise amen. Voilà. Ok, on avance. La première promesse de l'alliance que nous avons en Jésus-Christ s'appelle la sagesse divine. Ok? La sagesse divine est le plus grand atout pour réussir dans le royaume des cieux. Celui qui trouve la sagesse divine obtient des percées sans précédent. Et la Bible nous donne très rapidement, je passe dessus, quatre types de sagesse. La première sagesse, parce qu'il ne faut pas comprendre, quand on dit sagesse dans le monde, tout ça, sagesse. Je n'ai pas envie de trop rester dessus parce qu'il y aura tout un enseignement là-dessus. Mais très rapidement, la Bible nous donne quatre types de sagesse. Les trois premières sagesses que la Bible nous parle, c'est Jacques qui les cite. Dans Jacques 3 au verset 15, livre de Jacques 3 au verset 15, il dit, « Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. » Dis avec moi terrestre, charnelle et diabolique. Ici, il est en train de parler de la sagesse qu'on trouve chez les hommes. La sagesse terrestre dont il parle ici, c'est la sagesse du monde. OK? Parce que le monde aussi a des sagesses. Ensuite, quand il dit charnelle, la sagesse dont il parle ici, la sagesse charnelle, c'est la sagesse intellectuelle. Quand quelqu'un fait de l'école, tu sais, les païens qui sont intelligents, ils ont fait l'école, tout ça, et puis ils disent, oh, mais on n'a pas besoin de Dieu, nous aussi, on sait faire des choses. Hein. La sagesse intellectuelle, c'est créer des voitures. Tu sais, l'homme, il va même sur la lune hein, maintenant. Tu vois? Ça, c'est la sagesse qui vient d'Adam, la sagesse. Non? La sagesse intellectuelle. Et enfin, il y a la sagesse, la troisième sagesse, c'est la sagesse démoniaque ou encore diabolique. Ça, c'est la sagesse de Satan. Satan a une sagesse aussi. C'est un ange, hein? C'est un chérubin. Où est-ce que je veux dire? Donc, il connaît les choses. Et enfin, la quatrième sagesse, c'est celle dont Paul nous parle dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 6. Il dit, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ah j'aime ça, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Dis avec moi la sagesse de Dieu. Mystérieuse, vous vous rappelez Mystérion, mystérieuse, cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Amen. Mais je vais vous la lire dans une autre version, la version Parole vivante. Elle est encore plus explicite, très rapidement. Certes, nous aussi, 1 Corinthiens 2:6, Parole vivante. Certes, nous aussi, nous savons nous entretenir de pensées profondes. Nous possédons une sagesse. Dis avec moi, sagesse. Et nous en parlons aux chrétiens spirituellement mûrs. Vous vous rappelez la maturité spirituelle? Hein, maintenant, on commence à comprendre. Nous en parlons aux chrétiens spirituellement mûrs. Il ne s'agit pas, bien entendu, de ce qu'on appelle sagesse dans ce monde, ou encore sagesse terrestre. Et la philosophie que nous prêchons n'a rien de commun avec les spéculations des penseurs de l'époque présente, dont les systèmes s'effondrent les uns après les autres. Elle n'est guère prisée auprès des grands d'ici-bas ou des personnalités influentes de notre temps. Au règne si éphémère, elle ne s'inspire pas non plus des puissances détrônées qui gouvernent le monde et qui sont d'ores et déjà vouées à la destruction. Non, dis avec moi non. La sagesse que nous exposons vient de Dieu. C'est ce grand plan divin resté jusqu'ici mystérieux et qui demeure encore caché pour le monde, mais que Dieu nous a révélé à nous, le Sénat. Avant le commencement des temps, il avait décrété qu'il nous ferait partager sa gloire. Cela, les puissances des ténèbres qui régissent ce monde ne l'ont pas reconnu. Aucun des grands de ce siècle ne l'a compris, sinon il n'aurait certainement jamais crucifié celui qui règne en Seigneur dans la gloire, Christ. Que quelqu'un dise Amen. Voilà. Et ça, c'est la sagesse que nous avons. Et ici, parler de toi. Amen. Ici, parler de toi. La promesse de la sagesse est disponible dans notre héritage. Amen. Il y a 5 questions qu'il faut se poser au sujet de cette sagesse-là. La première, c'est comment peut-on définir la sagesse divine? Comment peut-on la définir? Eh bien, voici la définition de la sagesse divine, la sagesse qui vient d'en haut, la sagesse de Dieu. C'est une capacité surnaturelle, un savoir-faire divin. Tu sais faire des choses. Une aptitude inspirée par le Saint-Esprit. C'est lui qui te la donne. Cette aptitude, elle te rend intelligent dans la parole de Dieu. Plus tu comprends la parole de Dieu, plus tu deviens intelligent de Dieu. Plus tu deviens intelligent dans la parole de Dieu, plus tu deviens sage. Proverbe 1, au verset 1 à 5, Salomon nous dit ceci. Salomon nous dit, voici les proverbes de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de quoi? L'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, aux jeunes hommes ou encore à la jeune fille de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté, ou bien encore du savoir-faire. Que quelqu'un dise Amen. Donc la sagesse divine produit, une fois qu'on l'a trouvée et qu'on l'applique, elle produit obligatoirement des résultats. Si tu veux avoir des résultats concrets dans ta vie, trouve la sagesse de la parole de Dieu. Amen. La deuxième question, où commence cette sagesse? Cette sagesse commence ici, Proverbe 9 au verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Dis avec moi la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que celui qui craint Dieu craint la parole de ce qui est écrit dans la parole de Dieu et commence à la mettre en pratique. Et là, il commence à devenir sage. Amen. La troisième question, c'est qui donne la sagesse? C'est qui la donne? Eh bien, Jacques nous répond, Jacques 1, verset 5, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à qui ? À Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Eh bien, la sagesse, c'est quelque chose qu'il faut demander. Amen. C'est quelque chose qu'il faut demander. Proverbe 2, 6 dit, « Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sort la connaissance et l'intelligence. » C'est Dieu qui la donne. Quatrième question qu'on peut se poser, c'est, quels sont les bénéfices de la sagesse? Je crois que je vais m'arrêter là. Bien, je continue. Je continue, on s'arrête. Hein? C'est quoi les bénéfices de la sagesse? 1. La sagesse divine te donne la créativité. Dis-moi la créativité. Parce que la Bible nous dit dans Proverbe 3, au verset 19, vous irez méditer tous ces versets à la maison. Proverbe 3, au verset 19, c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Et cette sagesse, elle habite en toi. Quel que soit ce que tu veux créer dans la vie, appuie-toi sur la sagesse divine. Ok? Ah, c'est la sagesse selon la créativité. Deux, la sagesse te donne la victoire sur les circonstances de la vie. La Bible dit dans Proverbe 21 au verset 22, « Le sage prend d'assaut une ville fortement défendue et abat les fortifications qui donnaient confiance à ses habitants. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelles que soient les situations les plus difficiles de la vie, quand tu entres dans la sagesse de la parole de Dieu et que tu es en contact de ça, tu vas trouver les solutions. Vous voyez ce que je veux dire? 3. La sagesse divine apporte des réponses aux problèmes. Ok? Elle apporte des réponses aux problèmes. 4. La sagesse procure des biens matériels. Dis-moi les biens matériels. Quelqu'un qui devient sage dans la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui commence à appliquer, à mettre ça en pratique dans sa vie. Il commence à être créatif. Il commence à faire des choses. Ses yeux s'ouvrent. Il a des idées. Plus tu es en contact de la parole de Dieu, et plus tu vas commencer à avoir des idées dans tes affaires, dans tes projets. Quelqu'un va me dire, mais, ah, pasteur, ça là, c'est... Va dans la parole, mange la parole, médite la parole, et tu vas voir. Et ça, le Saint-Esprit va la donner. Elle donne des biens matériels, oui. Proverbe 8 au verset 17 dit, « Ceux qui m'aiment, c'est la sagesse qui parle ici, ceux qui m'aiment, je les aime en retour, ceux qui me cherchent sont sûrs de me trouver, j'offre la richesse et l'honneur, des biens stables et une prospérité méritée. » Vous voyez ce que je veux dire? 5. La sagesse divine donne une longue vie. Si tu veux vivre longtemps, il faut être sage dans la vie. Il ne faut pas aller faire des bêtises. Proverbe 3, verset 16, « Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. » Ça, c'est écrit dans la Bible. Hein. Dis avec moi, c'est écrit dans la Bible. Chaque fois, la lire. Hein. Ok. 6, la sagesse divine donne la sécurité. Dis avec moi, la sécurité. Proverbe 3, 17 dit, « Elle le dirige, qui est le jeune homme ou encore la jeune fille, sur des chemins agréables où il avance en toute sécurité. » Amen. Voilà, on va s'arrêter là. Je sens que c'est consistant. Tu sais, quand tu manges consistant, et puis au bout d'un moment, tu commences à... Amen, gloire à Dieu. Dieu est le Dieu de sagesse. Il est la sagesse. Et plus on est en contact de lui, plus on est en contact de sa parole, plus on devient intelligent. Et plus on devient intelligent dans la parole de Dieu, et plus on devient sage. La sagesse est la première promesse que Dieu nous donne. Parce que dès que tu es en contact avec Dieu, tu es en contact avec la sagesse. Et dès que tu es en contact avec la sagesse, tu vois comment il y a une transformation dans ta vie. Tu commences à faire des choses, tu vois par la grâce les portes s'ouvrent. Quand tu parles devant les gens, ça devient intelligent. Même quand tu écris. Il y en a ici, parmi d'entre vous, vous êtes appelé à écrire des livres. Vous ne savez même pas. Vous êtes bon dans l'écriture. Vous aimez ça. Vous êtes appelé à écrire des livres. Et Dieu vous appelle à écrire beaucoup de livres. Il y en a, vous allez voir, vous allez vous retrouver à parler devant les gens. Vous n'allez même pas vous rendre compte de ce que vous êtes en train de dire. Les jeunes, vous allez vous retrouver à l'école. Vous allez vous rendre compte qu'avant, vous étiez dernier de la classe. Maintenant, vous êtes premier de la classe tout le temps. Parce que maintenant, vous êtes dans la parole. Et quand vous faites la prière, Seigneur, rends-moi intelligent et sage. Vous vous rendez compte que même quand on vous présente l'exercice à l'examen, c'est pas, vous ne savez pas pourquoi c'est facile, quoi. Et puis, ça, c'est la sagesse. Il y en a, vous avez une entreprise, vous aurez une entreprise demain, et puis vous rendez compte que vous ne savez pas comment ça prospère, c'est tout. Ça marche. Parce que vous avez acquis une sagesse pour diriger, pour faire des choses. Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais qu'on acclame le Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce. Béni sois-tu encore, ô Dieu. Dans ton temple, tout s'écrit gloire. Celui qui entre en contact avec toi par le Saint-Esprit, le tuteur royal, il devient intelligent. La clé des clés, la connaissance est disponible, Seigneur. Nous l'avons reçue parce que l'Esprit de Dieu habite en nous, Seigneur. Et lorsque nous comprenons, Seigneur, la connaissance. Lorsque nous comprenons les informations qui sont contenues dans ton alliance, nous devenons intelligents. Et plus nous devenons intelligents dans la parole, plus nous devenons sages. Tu dis dans ta parole que la science ou encore la connaissance, l'intelligence, c'est la science des saints. La science des saints, c'est l'intelligence. La science des saints, c'est la sagesse. Celui qui devient sage, Seigneur, vit longtemps. Celui qui devient sage vit en sécurité. Celui qui devient sage arrive à acquérir beaucoup de biens matériels. Celui qui devient sage est créatif. Celui qui devient sage marche dans la crainte de Dieu parce qu'il sait, Seigneur, que la vie, Seigneur, elle est entre tes mains. Voilà pourquoi nous te disons merci, Seigneur, pour la révélation de ta parole. Seigneur, tu nous amènes à parler de ces choses parce que tu veux que nous devenions intelligents et sages, parce que tout simplement tu veux que nous soyons dans l'abondance. Tu dis dans ta parole que je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Seigneur, merci parce que, Seigneur, tu nous appelles à être dans l'abondance, Seigneur. Béni sois-tu encore pour ce que tu fais, Seigneur. Merci pour ton Église. Merci pour tes enfants. Merci parce que tu leur donnes les clés du royaume. Merci parce que tu leur accordes la grâce de se développer, de se déployer, d'être prospère. Seigneur, 2015 sera l'année, Seigneur, où nous allons voir une explosion, Seigneur, au sein de ton Église, dans la vie de chacun de tes enfants, Seigneur. Seigneur, même quand nous prions en ce moment, beaucoup même ne réalisent même pas de la grâce que tu vas déverser sur leur vie, Père. Merci, Seigneur, pour la foi, Seigneur, que tu suscites dans ton Église. Merci pour la maison du bâtisseur. Merci pour ce que tu fais au travers de cette Église. Merci pour ton peuple. Merci pour les jeunes. Merci pour ce que tu fais, Seigneur, au milieu des jeunes. Parce que tu les appelles à être violents dans le royaume. À prendre possession, Seigneur, de leur héritage. À, Seigneur, impacter leur environnement. À faire la différence, Père. Seigneur, merci. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Alors entends mon cœur. Mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Merci encore pour ta grâce. Merci pour ta parole qui donne de l'intelligence aux saints. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous t'avons prié et scellé ces paroles dans le sang de Jésus-Christ. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise amen, amen, amen. Et amen, Seigneur.
Nous espérons que vous avez été richement édifié par cet enseignement. Pour plus d'informations au sujet de l'église La Maison du Bâtisseur, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Si vous désirez avoir d'autres produits enregistrés à La Maison du Bâtisseur, vous pouvez soit commander directement en ligne ou téléphonez-nous au 04 65 60 56 ou envoyez-nous votre demande par email à l'adresse suivante contact@lamaisondubâtisseur.com. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.